Europe Matin, Omblin Roche, Sébastien Guyon.
Bonjour à toutes et à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Julien Pierce est absent, mais avec Sébastien Guyot, nous sommes très heureux de vous accompagner jusqu'à 6h30.
Très heureux de vous accompagner, et nous ne sommes pas seuls ce matin.
Pour vaincre les maladies, combattre les virus, lutter contre les épidémies, pour le progrès, pour l'avenir de tous, défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci.
Cette voix, c'est celle d'Alexandra Lamy, la marraine du Pasteur Don. La 15e édition est lancée depuis hier jusqu'à dimanche. L'Institut Pasteur compte sur vous. À quoi servent vos dons? Où en est la recherche contre les maladies respiratoires, le Covid en particulier? Nous serons avec Vincent Hénouf, directeur adjoint du Centre National de Recherche de Référence des Virus Respiratoires de l'Institut Pasteur. Rendez-vous à 6h10. À la une également ce matin, Omblin, les récifs coralliens en danger.
Ah oui, ils sont grandioses. Colorés, un émerveillement pour tous ceux qui ont la chance de les approcher, mais ils sont aussi extrêmement fragiles. En moins de 10 ans, 14% des coraux ont disparu des océans. C'est ce que nous apprend la plus importante étude menée sur le deuxième poumon de la planète publiée cette semaine. Les récifs coralliens abritent 25% de la vie marine. À titre de comparaison, pour bien comprendre de quoi on parle, la variété de la faune et de la flore qui forment les récifs coralliens équivaut à celle des forêts tropicales d'Amazonie.
Ah oui, c'est énorme.
Par exemple, c'est considérable. En cause pour expliquer cette disparition, le changement climatique, mais pas seulement. Nous serons à 5h40 avec Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au CRIOB. C'est le laboratoire qui est mondialement reconnu pour ses travaux de recherche sur les récifs coralliens.
Et comme chaque jeudi matin, on va se mettre à table avec Olivier Pouls dans cette petite matinale. Ce sera, disons, plus pour le déjeuner que pour le petit déjeuner, oui. Puisqu'il sera question de volailles, des volailles de qualité, comme le poulet de Bresse par exemple. Et puis votre partition Omblin en fin d'émission.
Son dernier album de chansons originales remonte à l'an 2000.
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis.
C'est le grand retour de Gérard Lenormand. Et on va chanter en chœur. Voici les clés ce matin, bien sûr. Et on va retourner donc au cœur des années 70 quand il devient le petit prince de la chanson française. Rendez-vous à 6h20.
Vous savez tout, ou presque, l'essentiel en tout cas. Bon réveil avec Europe 1. Anissa Haddadi, ma chère Anissa, bonjour. Pas mal de grisailles ce matin.
Et oui, avec le retour de l'anticyclone qui nous apporte un beau soleil pour la fin de semaine. C'est aussi le retour d'un temps calme et c'est aussi le retour des grisailles matinales. Alors soyez très prudents sur toutes les régions situées au nord de la Loire. Entre la Bretagne et l'Alsace, personne n'est épargné. On a des brouillards épais, tenaces. D'ailleurs, sur le nord-ouest, la Normandie et la Bretagne, je suis au regret de vous dire que les brouillards de ce matin ne vont pas se dissiper. Ce sont des nuages qui vont rester tenaces. Donc on a deux zones aujourd'hui où le temps va être très gris, c'est la Bretagne, la Normandie, le Nord-Ouest et la Corse. Entre ces deux zones, après la dissipation des brouillards, comme hier, on a le retour de belles éclaircies et on aura un après-midi très ensoleillé, ça va être très sympa, mais avec les lunettes de soleil, on sort les doudounes, il fait froid, vous l'avez senti, le thermomètre a bien baissé, on a seulement 2 degrés à Guéret. 5 à Châteauroux ce matin, 7 à Niort, là c'est actuellement, 12 à Montpellier, 15 degrés à Brest, on a 10 degrés à Paris, cet après-midi 12 à 26.
Lunettes de soleil et doudoune, vous êtes magnifique Anissa, merci, à tout à l'heure. Place à l'info pour votre premier journal. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche, Sébastien Guyot.
Ça fait un mois que la progression est incessante. Ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde.
Ira pas, Éric Zemmour laisse planer un très léger doute sur sa candidature à la présidentielle de 2022. Invité de Laurence Ferrari dans Punchline hier soir sur Europe 1, le polémiste apparaît pour la première fois au second tour dans un sondage. Et ça change tout pour Emmanuel Macron, on y revient dans un instant. Prévenir la pédophilie dans l'église, sujet devenu central deux jours après la publication du rapport de la commission Sauvé. Mais certains diocèses agissent déjà depuis plusieurs années. Formation obligatoire des prêtres, cellules de veille, mesures déjà prises dans le diocèse de Gap. Et puis après les victimes du Stade de France et des terrasses, premier témoignage des survivants du Bataclan hier au procès des attentats du 13 novembre 2015. Récit glaçant parmi eux, celui de Clarisse, rescapée héroïque. Récit de sa soirée dans le journal.
Europe 1.
le journal, c'est avec vous, ma chère...
Alban Le Prince, Alban, bonjour.
Bonjour, Alban.
Bonjour à tous. Éric Zemmour laisse encore planer un léger suspense sur sa candidature à la prochaine présidentielle, mais il s'en rapproche un peu plus tous les jours. Invité de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 et CNews hier soir, le polémiste de mieux en mieux placé dans les sondages confie que ses scores l'encouragent.
Moi, je ne suis pas un chef de parti qui a besoin de se présenter pour financer ses affidés. Et j'observe et je regarde et je me dis, bon, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je ne peux pas y aller? Est-ce qu'il faut y aller? Etc. Voilà. Et effectivement, ce sondage, vous avez tout à fait raison.
Je suis ouvert là.
Non, mais ces sondages, parce que bon, ça fait un mois que la progression est incessante, ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde.
Et plus tard dans la soirée, en dédicace à Versailles pour la sortie de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », le polémiste est revenu sur son positionnement politique. « Je suis le candidat de la droite, je suis le candidat de ce qu'on appelait le RPR », assure Éric Zemmour qui, pour la première fois, si l'on en croit les sondages, se qualifie au second tour de la présidentielle avec 17% d'intention de vote. Louis de Raguenel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Si les sondages se confirment dans les urnes, qu'est-ce que ça change concrètement pour Emmanuel Macron ?
Eh bien, ça change à peu près tout. Le président rêvait de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen, persuadé qu'il la battrait facilement. Et donc, ce sondage, qui reste une photo de l'opinion à un instant T, vient semer le doute chez Emmanuel Macron. Car ce n'est pas la même chose de se retrouver face à Éric Zemmour. Le chef de l'État ne sait pas bien comment le saisir, comment le prendre, d'autant qu'il y a un vrai parallélisme sur la forme. La stratégie de vraie-fausse campagne du polémiste ressemble beaucoup à celle qu'il avait lui-même mise en place en 2016, avant de se déclarer candidat. Candidat sans parti, sans véritable équipe, contre le système et beaucoup de mystères. Bref, je peux vous dire que c'est ce qui inquiète le plus l'Élysée, qui voit bien que les arguments utilisés aujourd'hui contre Éric Zemmour se rapprochent de ceux entendus en 2016. Une présidentielle ne se remporte pas dans les sondages, c'est une bulle médiatique qui va éclater. Et pourtant, Emmanuel Macron avait gagné. Mais pour le moment, les proches du chef de l'État se rassurent en se disant que malgré tout, Éric Zemmour fait beaucoup de mal à la droite, que cible précisément le chef de l'État. Emmanuel Macron espère en profiter pour séduire davantage l'électorat libéral et centriste pour qui le vote Zemmour est impossible.
Merci Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1.
Cette question à présent, comment prévenir la pédophilie des prêtres? Question plus que jamais d'actualité, deux jours après la remise du rapport de la Commission Sauvé.
L'Église catholique française reste sous le choc, comme sonnée, mais certains diocèses n'ont pas attendu sa publication pour agir, notamment à Gap, dans les Hautes-Alpes, où des mesures sont prises depuis plusieurs années. Jean-Luc Boujon.
Ce fut un des premiers chantiers de Mgr Xavier Mal à son arrivée dans le diocèse de Gap en 2017. On est alors en pleine affaire Prena-Barbarin à Lyon, pas très loin d'ici. Pour s'attaquer au fléau de la pédophilie, le nouvel évêque commence donc par créer une cellule de veille avec ligne téléphonique directe et adresse mail de signalement. Il met ensuite en place des formations obligatoires à destination des 40 prêtres de son diocèse. Formations sur le droit pénal, sur la prudence pastorale, comment se comporter avec un enfant. Des formations qui ne sont pas que théoriques, explique Mgr Xavier Mal.
On a évidemment prévu des temps en atelier. Il y a des cas pratiques, il y a des échanges d'expériences, voilà, sans rompre le secret de confession, mais voilà, il y a des choses un peu plus pratiques. Je me suis trouvé dans telle ou telle situation, voilà, il y a aussi des cas comme ça, des partages. Quoi.
Autre initiative, la rencontre directe avec une victime.
J'ai demandé à une victime si elle ne pouvait pas venir ici à Gap pour rencontrer les prêtres. Et donc, faire rencontrer, je crois que ça a été très très fort, cette journée de formation, et là, tout le monde m'en a vraiment parlé, comme une journée très forte avec les laïcs. Je crois que c'est fondamental, la rencontre avec les prêtres.
Autant d'initiatives facilement transposables ailleurs, car pas très compliquées à mettre en place, ni très coûteuses, et qui peuvent se révéler efficaces, estime l'évêque. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Troisième dose de vaccin contre le Covid pour les soignants, l'entourage des personnes immunodéprimées et le personnel des transports sanitaires. Recommandation de la Haute Autorité de la Santé hier après les plus de 65 ans et les personnes à risque. Malgré des centaines de milliers de postes à pourvoir en France, l'INSEE anticipe une nette baisse du chômage pour cet automne. Environ 7,6% au troisième trimestre contre 8% au deuxième, soit quasiment un point de moins qu'avant la crise sanitaire. Résultat à confirmer le 19 novembre.
Après les victimes du Stade de France et celle des terrasses. Premier témoignage des survivants du Bataclan. C'était hier, devant la cour d'assises spéciale au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Des audiences qui dureront 4 semaines avec en moyenne 16 auditions par jour. Les rescapés racontent l'enfer vécu ce soir-là. Les tirs, les morts, le sang. Parmi les miraculés de cette soirée, Clarisse, un témoignage glaçant mais aussi époustouflant et héroïque livré à la barre. Le 13 novembre, son instinct de survie l'amène à se cacher dans un sous-plafond de la salle avec d'autres spectateurs. Récit de Gladys Lafitte.
Clarisse, 24 ans à l'époque, aime observer les visages. Et ce soir-là, dans la salle, tout le monde était heureux. D'ailleurs, à la barre, elle sourit. Fauchée, comme elle le dit, elle veut ressortir du Bataclan, acheter des canettes de bière. Alors dans le vestiaire, elle entend un son assourdissant qui déchire le silence de la rue. Elle regarde le videur. Je ne vois pas ce qu'il voit, mais je comprends. La mort, elle est là, et il la voit. Trois terroristes entrent. Clarisse fait demi-tour, en pilote automatique, atterrit à droite de la scène. Une cible facile, se dit-elle. Elle voit cette porte qu'elle défonce, des escaliers, une loge vide, se dit « on est piégé comme des cons, quelle mort de merde ». Clarisse réussit à faire rire la salle d'audience. Investie d'une mission selon ses mots, elle casse comme une furie le faux plafond à coups de poing et se cache pendant de longues heures avec d'autres personnes. « Vous avez conscience que vous avez aidé beaucoup de personnes à s'en sortir », remarque le président. « C'était hors de question que je meure ce soir-là », conclut Clarisse, modeste et digne.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Europe 1, il est 5h07, bienvenue si vous nous rejoignez. Le journal d'Alban Le prince, excusez-moi, ma chère Alban. Certains agriculteurs du Lot-et-Garonne disent non à la construction de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse.
Les travaux pourraient commencer dans 3 ans pour une mise en service à l'horizon 2030. Relier Bordeaux à Toulouse en 1h05, tentant pour les voyageurs, beaucoup moins pour les agriculteurs du coin. Ils craignent un impact majeur des travaux sur leurs terres, notamment dans le pays d'Albret, non loin d'Agen. Un reportage sur place de notre correspondant européen dans le sud-ouest, Stéphane Place.
Pommes, cerises, abricots, pêches, brugnons, sans oublier les fameux pruneaux d'Agen, de la vente directe, des repas pris sur place. Depuis 31 ans, Pascal Roch exploite la ferme créée par son père ici à Montesquieu. À 56 ans, cet arboriculteur vit un cauchemar éveillé, tel qu'il est conçu. Le tracé de la future LGV Bordeaux-Toulouse sonnerait le glas de son activité.
La LGV passe ici, juste au-dessus de la route. Elle traverse mon exploitation et elle écrète le coteau. On est nullement contre le TGV. On est particulièrement contre le tracé de la LGV, le dernier qui a été défini. Ce sera une balafre sur l'Albret, énorme. On va nous détruire.
Et le maire de Montesquieu, Alain Polo, prône l'aménagement des voies existantes.
Les petites communes comme les nôtres, ils s'en foutent royalement. Qu'ils aménagent la ligne existante, elle y est, ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables. Alors, si ça avait dû gagner vraiment du temps, mais pour 30 minutes, effectivement, dépenser 6 à 7 milliards d'euros, ça coûte trop cher.
Rallonger un peu le temps de trajet pour économiser plusieurs milliards, c'est l'argument que martèlent les habitants de ce joli coin de campagne, avec l'espoir mince, mais toujours présent, de préserver leur territoire.
Stéphane Place, le foot, Belgique-France. Premier face-à-face ce soir depuis la demi-finale du Mondial 2018.
Pour une autre demi-finale, cette fois-ci celle de la Ligue des Nations, les Diables Rouges comptent bien prendre leur revanche et elle va bien au-delà du foot. L'arrogance française perçue par les Belges reste dans les mémoires. Reportage à Bruxelles de notre correspondante Isabelle Horry.
Je crois que la Belgique va gagner 2-1 et que cette fois-ci, on va les avoir, les Français.
Dans les rues de Bruxelles, il y a une vraie envie de revanche, comme chez Nabil.
Ça risque d'être la guerre. Je ne sais plus quel est le journaliste sportif là chez vous qui a dit qu'on allait retourner en Belgique manger des frites là quand on était à l'Euro. On l'a très mal pris ici.
Chez Julien, grand fan des Diables Rouges, la colère est toujours perceptible.
On avait besoin de casser ce mythe qu'on est gentil, on va tout accepter en Belgique. Voilà, on n'est pas des petits moutons, on n'est pas un pays à annexer parce qu'on a la France à côté.
Pour le sociologue Jean-Michel Dewa, le foot a en fait révélé des rancœurs profondes.
Nous avons vécu durant des années dans une moquerie, dans un déclassement permanent, les blagues de Coluche. Nous avons été blessés. C'est révélateur de relations qui sont bien plus endommagées qu'on ne le pensait.
Tourner la page seulement si les Diables gagnent, sourit Noé.
Ça fait un an qu'on attend ce moment. On se dit, ouais, on aura notre revanche, et si on ne l'a pas, ça va être encore pire pour nous après quoi.
Mais promis, après ce sera possible de boire une bière ensemble quand même, assure un supporter, mais une bière, pas du vin. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et la bière comme le vin, avec modération évidemment. Belgique-France en demi-finale de la Ligue des Nations à suivre ce soir à partir de 20h45.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
On y arrive.
À tout à l'heure, 5h19.
Et sur Europe 1 à 5h11, c'est l'heure des courses, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon pari gagnant sera le 204, Franck Stella. Ce poulain, à peine âgé de 2 ans, va effectuer ses premiers pas en compétition, des débuts très attendus, car ce fils du crack étalon Frankel sera le premier rejeton de sa mère Spenberg, une jument qui s'est illustrée à un très haut niveau, et comme Mathieu Riquin, bon sang ne saurait mentir, il devrait pouvoir justifier d'emblée les bruits très favorables dont il fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi à Saint-Cloud, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 4, Franck Stella.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous dans une minute, c'est le pressing.
Oui, notre revue de presse décalée avec au programme un cold case médical, le destin hors du commun d'une footballeuse afghane et la dernière maîtresse de François Mitterrand. A tout de suite.
Blin Roche et Sébastien Guyot
sur Europe 1.
Bon réveil et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h12, c'est pile le bon moment pour l'ouverture de votre pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Blin, bonjour Sébastien.
Bonjour Martin. Avant de nous attarder sur trois histoires incroyables, un mot de la une de vos quotidiens. Et oui, ce matin, c'est un peu le bon, la brute et le truand. À la une du Parisien, ce titre, le vrai Kylian Mbappé, raconté par sa maman. C'est lui le bon. Elle s'appelle Fouzia Belkir. Elle sort du silence, telle une louve, comme elle le dit, pour défendre son fils de plus en plus critiqué. Le bon, donc, ce serait lui, Kylian Mbappé, qui sera ce soir avec les Bleus face à la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. La brute, ce serait celui évoqué par le Figaro en une, Kim Jong-un, qui fait monter la tension face à l'Amérique alors que la Corée du Nord vient de tester un missile hypersonique. Et puis le truand, ce serait, à en croire ses détracteurs, celui qui s'affiche en une de Libé ce matin, Lula, l'ex-chef d'État brésilien, qui a passé plus d'un an et demi en prison pour des faits supposés de corruption. Il est désormais libre, pas encore candidat, mais déjà favori de la prochaine présidentielle en 2022. Et face à un chef d'État d'extrême droite, prêt à tout pour garder le pouvoir, Bolsonaro, dans un entretien exclusif à Libé ce matin, Lula l'affirme haut et fort, Bolsonaro va perdre. Voilà pour les unes donc, de ce matin. Omblin, votre histoire du jour.
Vous savez ce que c'est un cold case ?
Bien sûr.
Oui. Voilà, une expression en bon anglais pour désigner une affaire criminelle non résolue depuis longtemps, mais qui est susceptible d'être réouverte si un nouvel indice apparaît. Eh bien, la médecine a aussi ses cold cases, figurez-vous. Oui, c'est à lire dans le Figaro ce matin. Direction Bellantre, en Savoie, jolie petite bourgade de montagnards de 900 habitants. Mm-hmm. Nous sommes en 2009 et pour la troisième fois depuis 10 ans, un médecin généraliste s'étonne de diagnostiquer une maladie rare, neurodégénérative, la maladie de Charcot. Mm-hmm. D'ordinaire, on recense 2,5 cas par an pour 100 000 habitants. 3 cas sur 900 habitants en 10 ans, c'est quand même beaucoup.
Oui, c'est pas mal.
Ouais, il alerte une neurologue de Grenoble qui trouve, elle, un quatrième malade et le signale à l'agence régionale de santé. Mais à ce moment-là, ça ne va pas plus loin. Sauf que les patients continuent d'arriver. Cette fois, c'est Santé publique France qui est avertie et qui décide d'enquêter. Serait-ce simplement le fruit du hasard ?
Tiens donc.
Il faut dire que les causes de la maladie de Charcot sont mal connues. 10% des cas sont héréditaires. Mais pour les 90% restants, on ne sait pas trop. Ça peut être dû à l'âge, mais on évoque surtout des facteurs environnementaux. En fait, de nombreuses molécules dans la nature sont connues pour leurs effets neurotoxiques. Des cas ont été recensés autour de l'étang de Thau, près de 7. On a alors mis en cause des huîtres et des moules. D'autres cas ont été trouvés après la Seconde Guerre mondiale dans les Philippines, encore des malades de la maladie de Charcot. Cette fois, on a pensé à des noix toxiques, mais rien n'a jamais été prouvé. Alors en Savoie, eh bien, on continue d'enquêter. On étudie minutieusement les arbres généalogiques des patients. On compare bien sûr les profils des personnes en bonne santé, sportives. Du côté alimentation, alors, eh bien, il semblerait qu'ils soient friands de pissenlits, de gibier et de champignons. Des champignons sauvages ? Eureka ! Peut-être !
Ah non, pas sûr !
Mais non, pas sûr. Tous consomment des fausses morilles, oui, connues pour leur toxicité, capables d'abîmer l'ADN de celui ou celle qui les déguste. Elles sont d'ailleurs, ces fausses morilles, ces morilles sauvages, sont interdites à la vente depuis 1991. Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse de travail. Donc, c'est une affaire à suivre et c'est à lire dans le Figaro.
Pour ce cold case, merci Omblin. Martin, c'est à vous.
Et ce matin, une femme hors du commun à l'affiche d'un documentaire sur Canal+, Nadia. Alors Nadia, c'est Nadia Nadim, footballeuse d'origine afghane qui jouait au PSG jusqu'à l'été dernier. Et son histoire résonne particulièrement avec l'actualité parce que Nadia, elle a quitté l'Afghanistan il y a plus de 20 ans avec sa famille pour fuir les talibans qui ont exécuté son père, qui était militaire dans l'armée régulière. À 12 ans, elle débarque avec sa mère et ses 4 sœurs au Danemark. Elle raconte son calvaire, apprendre une nouvelle langue, garder le contact avec sa famille restée à Kaboul. Mais très vite, Nadia trouve une échappatoire, le foot. Dans un pays où les femmes sont quasiment les égales des hommes sur le pré, son talent ne passe pas inaperçu. Elle devient footballeuse professionnelle, enchaîne les sélections avec le Danemark, 99 pour être précis. Elle joue aussi pour les plus grands clubs du continent, Manchester City et puis le PSG jusqu'à cet été. Donc Nadia Nadim a d'ailleurs remporté le championnat de France l'année dernière. Et c'est durant son expérience parisienne qu'elle rencontre Anissa Bonnefond, la réalisatrice de ce documentaire, fascinée par cette vie de roman. Car ce n'est pas fini, hein. Aujourd'hui exilée aux États-Unis, Nadia termine des études pour devenir chirurgienne.
Tiens donc.
Voilà, après sa carrière de footballeur, c'était
son trajectoire.
Exactement, c'était son rêve d'enfant et elle est en passe de le réaliser. Mais la véritable histoire de ce documentaire, c'est un retour avorté. Nadia essaye par tous les moyens de retourner en Afghanistan, notamment pour récupérer les médailles militaires de son père, qu'il a enterré avant de mourir dans le jardin de leur ancienne maison. Et elle n'y parviendra pas. Par deux fois, son voyage est annulé. Trop dangereux, selon l'ambassadeur de France à Kaboul.
Je veux y retourner. Vous me racontez toutes ces histoires et vous me dites que c'est dangereux à cause de ces attaques quotidiennes. Je sais qu'en y allant, je deviens une cible à cause de ma position sur les droits des femmes.
Ça ne fait aucun doute, malheureusement.
Oui. Oui, je sais tout ça, mais j'ai quand même envie d'y aller.
Alors depuis le 15 août, le pays est définitivement tombé aux mains des talibans. Tout espoir s'est évanoui, mais Nadia a continué à se battre pour les siens grâce à l'aide de l'ambassadeur qu'on vient d'entendre. Elle a fait rapatrier en France un de ses cousins, policier, ainsi que toute sa famille. Alors si vous avez raté Nadia hier soir, vous pouvez retrouver le film sur la plateforme MyCanal. Et puis pour les coulisses, lisez Nadia Nadim, loin de Kaboul, c'est-à-dire sur le site de l'équipe.
Un documentaire et un article à lire. Merci beaucoup Martin. Pour ma part, j'aurais pu continuer à vous parler foot avec les petites phrases de la maman de Kylian Mbappé ce matin dans Le Parisien. Mais j'ai choisi de m'attarder sur l'histoire incroyable d'une autre femme, la dernière maîtresse de François Mitterrand. Elle s'appelle Claire, un nom d'emprunt. Son histoire, c'est la journaliste du Monde Solène de Royer qui la raconte dans un livre sorti hier et intitulé « Le dernier secret » encensé ce matin par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Claire a 22 ans quand son idylle avec l'ancien président de la République commence. Lui en a 72. 50 ans de différence.
Ans,
nous sommes en 1988. Mitterrand fascine cette jeune femme originaire de Limoges. Elle fait le pied de grue devant son immeuble de la rue de Bièvre dès 1984, peu après son arrivée à Paris. Elle finit par se faire inviter pour un petit déjeuner à l'Élysée. Puis quelques années plus tard, en 88 donc, c'est Claire qui invite François Mitterrand à dîner chez elle. Un baiser est échangé, puis un autre. Il l'appelle tous les jours, matin et soir. Avec elle, il joue tous les rôles, peut-on lire dans l'article. L'amant, le père, le psy, le Pygmalion. Cette relation au crépuscule de la vie de Mitterrand, c'était aussi un moyen de rester vivant, raconte l'auteur. Et ils resteront ensemble pendant 8 ans, jusqu'à la mort de François Mitterrand en 1996. On est fasciné par la petite histoire dans la grande, nous dit le journal, un récit puissant et bouleversant qui est aussi celui de la fin d'un règne. Claire va rester anonyme, elle ne sortira pas de l'ombre. Alors si vous voulez en savoir plus, 416 pages vous attendent. Le dernier secret de Solène de Royer aux éditions Grasset et l'article à lire ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien.
Merci beaucoup Sébastien. On referme le pressing et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mardi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Candidat pas encore déclaré, Éric Zemmour invité hier de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 estime que les sondages l'encouragent à se présenter à la prochaine présidentielle. Pour la première fois, il qualifie le polémiste au second tour avec 17% d'intention de vote. La Haute Autorité de la Santé ouvre la voie à une troisième dose de vaccin contre le Covid aux soignants, personnel des transports sanitaires et à l'entourage des personnes immunodéprimées. La dose de rappel jusqu'ici réservée aux plus de 65 ans et personnes à risque. L'INSEE, très optimiste sur les chiffres du chômage du troisième trimestre 2021. Face à un rebond de l'emploi salarié, il pourrait s'établir à 7,6%, quasiment un point de moins qu'avant la crise sanitaire.
Europe 1. Bon matin, bon réveil, il est 5h21 sur Europe 1, c'est l'heure des initiatives en France. On met en lumière chaque jour celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Sébastien, on défend notre planète et la biodiversité.
Bonjour Hugo Struna.
Bonjour.
Vous êtes responsable communication, Vigie Nature au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1.
Merci.
Nous allons parler avec vous d'une initiative qui peut intéresser tout le monde, petits et grands, de 7 à 77 ans, en ville comme à la campagne. Alors vous le savez, chaque jour ou presque, on vous parle dans les médias des rapports alarmistes du GIEC ou d'autres instituts, de la menace d'une sixième extinction de masse. Hugues Strenard, si je vous dis « notre maison brûle et nous regardons ailleurs », vous me répondez ?
Bah effectivement, c'est nous, un de nos objectifs à Viginature, c'est de pousser les gens à s'intéresser à la biodiversité ordinaire, aux petits animaux, aux plantes sauvages qui poussent autour de chez nous, dans notre quartier. Et c'est pour ça que nous, on incite les citoyens donc, à participer à tous nos programmes.
Alors, on va y venir, Hugo Strenard, je vous coupe. Je pensais que vous alliez me répondre Jacques Chirac, 2002, au sommet de la Terre. C'était sa phrase. En tout cas, là, en effet, en 2021, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez l'occasion de regarder et d'œuvrer concrètement pour la nature. Et là, vous allez nous expliquer en quoi ce programme de science participative Viginature, en quoi consiste ce concept ?
Oui, alors Viginature, c'est un regroupement de programmes de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nos programmes consistent à proposer à tout un chacun, hein, même sans connaissance préalable, de collecter des informations sur la biodiversité qui nous entoure, les oiseaux du jardin, les papillons, les plantes sauvages de nos rues, tout ça par le biais de petits protocoles, de feuilles de route assez ludiques et peu chronophages. Et les données obtenues sont ensuite envoyées aux chercheurs et elles permettent de faire des suivis de différentes espèces dans le temps et à l'échelle de la France, mais aussi de répondre à des petites questions d'écologie, par exemple comment les papillons réagissent à l'urbanisation, comment les insectes pollinisateurs répondent au réchauffement climatique, etc. Voilà, on fait d'une pierre deux coups, on apprend à reconnaître la biodiversité qui nous entoure, tout en contribuant à la science, et ça c'est très très gratifiant.
Très gratifiant, on le comprend. Très concrètement, comment ça se passe si je suis à la campagne? J'imagine que je peux installer des mangeoires pour les oiseaux, mais si j'habite en ville, je peux faire quelque chose ?
Eh ben oui, tout à fait. Je vous donne l'exemple de BirdLab, là, qui est une petite application, un jeu sur smartphone qu'on peut utiliser en hiver, donc de mi-novembre jusqu'à fin mars. Alors c'est très sympa pour les jeunes et pour les moins jeunes. Le principe est très simple. On installe deux mangeoires dans son jardin et même sur son balcon. Hein, donc même si on habite en ville, on peut participer à BirdLab. Mmh. On met des petites graines de tournesol sur les mangeoires. On attend quelques jours que les oiseaux repèrent la ressource. Pour commencer la partie, on se place donc devant les mangeoires et pendant 5 minutes chrono, on va reproduire sur son écran, en déplaçant des petits pictogrammes, tous les allées-venues des différentes espèces. C'est très accessible. Si on n'est pas du tout à l'aise avec les oiseaux, on peut faire quelques petits quiz d'apprentissage juste avant pour se familiariser avec les espèces principales du jardin.
Une fois qu'on a compté les oiseaux, les papillons, les abeilles ou qu'on a repéré peut-être les plantes sauvages, donc j'envoie mes données aux chercheurs, mais en quoi ces scientifiques, je peux m'être trompé ?
Oui, bah alors on a évalué que les erreurs d'observation étaient assez marginales, assez faibles, surtout que les participants le font activement, de leur plein gré, donc en général ils le font sérieusement. Je vous donne juste un petit exemple. Il y a toujours une utilité donc scientifique derrière nos programmes. Par exemple, en ce qui concerne BirdLab, là, les chercheurs utilisent le jeu pour étudier les comportements des oiseaux sur les mangeoires. Est-ce qu'il y a des phénomènes de compétition ? Est-ce qu'il y a des affinités entre les espèces ? Et on a des résultats très concrets, des publications qui sortent tous les ans dans des revues internationales grâce aux données des bénévoles. On a par exemple regardé le comportement de la perruche à collier, vous savez, cet oiseau vert-pomme imposant qui s'installe de plus en plus dans les grands parcs, et surtout en région parisienne. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la perruche semble pas gêner outre mesure les plus petites espèces avec qui elle fréquente les mangeoires lors des repas. En fait, ni plus ni moins que d'autres oiseaux aux gabarits similaires, comme la tourterelle turque ou la pie bavarde. Voilà, c'est un exemple de résultats scientifiques très concrets qu'on obtient grâce aux sciences participatives.
Donc si on était nul en maths ou en SVT, peu importe, on est d'accord, ça s'adresse à tout le monde, un novice peut devenir un ornithologue du dimanche ?
Oui, bien sûr. Il suffit de s'intéresser à ce qui vit autour de nous, dans notre jardin, dans notre quartier, sur notre balcon. C'est très simple. Et puis, les protocoles sont faits pour que tout le monde puisse participer sans rencontrer de difficultés. C'est toujours assez ludique. Ça prend pas beaucoup de temps. On demande d'observer une fois tous les mois, toutes les semaines ou même deux, trois fois par an les espèces. Et puis, encore une fois, c'est gagnant-gagnant. On apprend à reconnaître les espèces, à découvrir la biodiversité et en même temps, on aide les chercheurs et on participe à une aventure scientifique formidable.
Eh bien, j'en suis persuadé, vous nous avez donné envie, Hugo Strenard, ce matin sur Europe 1, responsable communication Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci à vous et bonne journée.
Merci.
Europe Matin, Sébastien Guyot et Omblin Roche.
Bon réveil à toutes et à tous, il est 5h28 sur Europe 1. Demandez le programme de la prochaine demi-heure et c'est un signal d'alarme, Omblin, qui a été émis cette semaine concernant la disparition des récifs coralliens.
Dans son rapport spécial sur l'océan en 2019, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a estimé que 70 à 90% du corail pourrait disparaître si la température à la surface de la Terre augmentait d'un degré et demi, avec 2 degrés supplémentaires, c'est la quasi-totalité qui serait condamnée. Eh bien, une nouvelle étude vient d'étayer cette thèse. En moins de 10 ans, la planète a perdu 14% de ses coraux. La pollution et la surpêche menacent également les récifs coralliens. On sera dans 10 minutes avec Joachim Claudet. Il est directeur de recherche CNRS au CRIOB, le laboratoire français spécialisé dans l'étude des écosystèmes coralliens.
À suivre également la prescription culture avec Olivier Pouls. Le jeudi, c'est gastronomie. Et Olivier nous parlera de volaille ce matin. La météo, ma chère Anissa Haddadi, c'est en Corse que la journée sera la moins belle.
Et oui, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que sur l'île, le ciel va rester chargé toute la journée, avec même un risque d'averse. Alors pourquoi seulement sur la Corse? Eh bien parce que la Corse, elle est sous l'influence d'une goutte froide qui touche l'Italie.
D'accord.
Et le continent, lui, est sous l'influence d'un bel anticyclone qui nous apporte du soleil. Alors soyez patients en Corse, le soleil va arriver chez vous, ça va juste prendre un petit peu plus de temps. Ce matin, sur le continent, donc attention, brumes et brouillards hein, sur l'ensemble de la moitié nord, hein, de la Bretagne à l'Alsace. Prudence également en Auvergne et dans le sud-ouest, là aussi, on a des nuages bas, des brumes. Tout ça est assez épais, tenace, ça va mettre du temps à se dissiper. Mais alors cet après-midi, le soleil va prendre la place de ces brouillards et l'après-midi sera très agréable. Attention dans le sud, là aussi, hein, petite alerte, Mistral et Tramontane qui soufflent jusqu'à 100 km/h. Donc ça souffle fort au bord de la Méditerranée. Les températures, il fait frais, 2 à Aurillac, 3 à Nevers ce matin, 9 à Paris, 12 à Montpellier et 15 à Quimper et à Brest. Bah oui, grâce aux nuages, il fait bien plus doux.
C'est logique.
Il y a au moins un avantage. Les températures de cet après-midi, oui. 12 à 26 degrés.
Merci Anissa, à tout à l'heure. Très bon réveil à tous. Les d'Europe 1, votre journal à présent, il est 5h30.
Europe Matin,
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
Pas de fait récurrent par rapport au port du voile à Montpellier, quoi.
Des voiles où ça semble dire ce policier montpelliérain. Le préfet de l'Hérault, lui, en voit partout et s'attaque au port du voile intégral dans les lieux publics. L'Église peut-elle être poursuivie en justice après les révélations du rapport Sauvé sur les abus sexuels commis par des religieux et des laïcs sur des mineurs? Explication de Virginie Riva dans ce journal. La guerre des mots continue entre la France et l'Algérie. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du ministre algérien des Affaires étrangères de dénoncer les réflexes colonialistes de certains acteurs politiques français. Et puis y aura-t-il des jouets à Noël? La réponse est oui. Les fabricants se sont organisés, les risques de pénurie s'éloignent. Cela n'empêchera pas le Made in France de s'imposer dans les rayons. Le journal de 5h30, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est un communiqué publié en début de semaine par le préfet de l'Hérault. Il s'inquiète d'une recrudescence du port du voile intégral dans les rues de Montpellier et demande donc un renforcement des contrôles. Le plus souvent, il s'agit de très jeunes femmes, écrit-il, et de rappeler que la loi l'interdit dans l'espace et les lieux fréquentés par le public. Dossier très sensible, surtout à l'approche de la présidentielle. On a voulu vérifier sur le terrain et les choses ne sont pas si limpides. Reportage Benjamin Pétain.
On n'a pas de fait récurrent par rapport au port du voile à Montpellier, quoi. Sur le centre-ville de Montpellier, par exemple, on n'en voit pas tellement, quoi.
Lionel Groux a fait le tour de ses collègues policiers sur le terrain. Mais pour ce syndicaliste SGP Police, il n'y a pas d'augmentation du nombre de femmes portant le voile intégral depuis que le masque est obligatoire à Montpellier. D'ailleurs, pour son collègue Jérôme Vallat, aucune opération ciblée n'est prévue pour le moment.
Les collègues, au gré de leur patrouille, peut-être tomberont sur des personnes voilées et appliqueront les consignes qui seront données. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune opération prévue sur ce sujet bien particulier. Parce que vous dire à l'instant T qu'à tel endroit vous allez trouver quelqu'un de voilé, c'est quasiment impossible.
À la mosquée Averroès, en plein cœur du quartier de la Paillade, on considère aussi que ce phénomène est marginal. Mais cette fidèle reconnaît que le masque permet à certaines jeunes filles d'entretenir la confusion.
Il m'est arrivé de voir des femmes avec le vrai niqab, mais elles sont très rares. Nous avons quelques jeunes filles qui portent le hijab qui est large, avec le visage qui n'est pas masqué. Mais comme elles sont obligées de porter le masque, c'est vrai que ça porte à confusion. Surtout que c'est vrai qu'elles le choisissent, elles le mettent à la couleur de leur tenue.
Et pour les musulmans que j'ai rencontrés, la fin de la pandémie et avec elle la fin du masque, dans les prochains mois, on peut l'espérer, devrait permettre de clarifier les choses. À Montpellier, Benjamin Péter, Europe 1.
C'est l'une des questions que l'on se pose après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Que peut faire la justice ?
On rappelle que le nombre de victimes est impressionnant, 330 000 au moins si l'on tient compte des agressions commises par des religieux et des laïcs. Virginie Riva, est-ce que l'Église peut être tenue responsable pénalement ? En clair, est-il possible de traîner l'institution devant les tribunaux ?
Alors, la réponse est non. Contrairement aux États-Unis, on ne peut pas engager la responsabilité de l'Église de France dans son entier, car elle n'a pas de personnalité juridique et elle est composée de structures qui n'en ont pas non plus. Par exemple, les diocèses, les paroisses, seule exception, les congrégations ou bien les personnes physiques qui ont une autorité, c'est-à-dire les évêques. En France, d'ailleurs, depuis les années 2000, trois évêques ont été poursuivis, dont le cardinal Barbarin, poursuivis dans le cadre de leur responsabilité pénale pour non-dénonciation d'actes criminels. Mais les évêques peuvent-ils être tenus pour responsables d'actes qu'ils n'ont pas commis simplement parce qu'ils sont les supérieurs hiérarchiques de prêtres agresseurs. Alors là, il y a débat et la commission Sauvé pourrait faire bouger les lignes. Leur responsabilité civile pourrait être engagée, cette fois à travers ce que l'on nomme la responsabilité sans faute. Exemple, elle a été retenue contre un directeur d'EHPAD qui n'avait commis aucune faute alors que l'un de ses salariés infligeait de mauvais traitements à ses pensionnaires. Il a donc dû compenser un préjudice qu'il n'avait pas commis. Un membre de la commission nous confirme que si on appliquait ça à l'Église, les évêques seraient en première ligne avec, à la clé, des coûts énormes pour l'institution.
Virginie Riva du service Société d'Europe 1.
Et cette affaire de pédocriminalité dans l'Église est loin d'être close. La levée du secret de la confession divise l'épiscopat.
Et c'est pourtant l'une des recommandations du rapport Sauvé. Le prêtre doit alerter la justice en cas de violence sexuelle dès lors qu'un fidèle se présente comme une victime, un témoin ou l'auteur des faits. Impossible, répond l'évêque de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Le secret de la confession est plus fort que les lois de la République. Propos qui suscitent l'indignation de la classe politique.
5h35 sur Europe 1. La crise sanitaire, tous les clignotants repassent au vert ou pas loin.
Moins de 50 cas pour 100 000 habitants. On est passé sous le seuil d'alerte. Le nombre de malades dans les services de soins critiques continue de diminuer. On est passé sous la barre des 1300 patients. Dans ces conditions, le maintien du pass sanitaire a-t-il encore un sens ? Cette question sera au centre du Conseil de défense prévu aujourd'hui. Le corps retrouvé dans les Ardennes est bien celui de Valentin Gomez. Cet étudiant lillois de 23 ans avait disparu lors d'un week-end d'intégration. Les analyses ADN ont confirmé les premières constatations visuelles faites par les gendarmes. Impossible à ce stade de déterminer les causes de la mort. Une enquête judiciaire est en cours. Et puis l'Assemblée adopte la proposition de loi instaurant un tarif minimal pour la livraison de livres à domicile. Mesure destinée à rééquilibrer le rapport de force entre les plateformes de e-commerce comme Amazon et les librairies indépendantes. Le texte doit encore repasser par le Sénat.
Dans l'actualité également, Christophe, ce matin, la tension qui ne retombe pas entre la France et l'Algérie. Dernier épisode en date, les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères.
On pourra appeler ça le retour à l'envoyeur. Petit rappel rapide des faits, Emmanuel Macron avait critiqué la classe politique algérienne, accusée d'entretenir une rente mémorielle sur la guerre d'Algérie. Réponse de Ramtane Lamara au cours d'un déplacement au Mali, pays voisin de l'Algérie, et lui aussi en crise avec Paris.
Partenaires étrangers ont besoin de décoloniser leur propre histoire. Cette décolonisation qui doit s'opérer s'annonce comme une priorité pour faire en sorte que ce que je qualifierais de faillite mémorielle, qui est malheureusement intergénérationnelle, et donc cette faillite mémorielle qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crise malencontreuses, devraient pouvoir s'assainir par un respect mutuel inconditionnel.
Voilà le ministre des Affaires étrangères algérien, propos tenu à la télévision malienne.
On a tous gardé une âme d'enfant quelque part, ça tombe bien. Le salon du jouet se tient en ce moment près de Paris.
Et pas n'importe quel salon, celui du jouet français. C'est à Saint-Ouen, en région parisienne. Tous les fabricants s'y donnent rendez-vous. On parlera évidemment de Noël, c'est dans 2 mois et demi, mais aussi pénurie. Et de ce côté-là, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Les entreprises se sont adaptées et ce cru 2021 pourrait être très bon pour la filière française, Carole Ferry.
Oui, et nos fabricants français représentent 14% des jouets en rayon dans la grande distribution. C'est peu, mais c'est mieux que les 8% d'il y a 4 ans. Le jouet le plus vendu aujourd'hui, c'est ma boîte à histoire de l'Uni. La marque numéro 1, Sophie la girafe, que l'on mâchouille dans 75 pays dans le monde. Et oui, car nos marques françaises réalisent 42% de leurs ventes à l'export, essentiellement en Europe, mais certaines dépassent ces frontières, comme BioViva, qui a aujourd'hui 15 jeux traduits en chinois selon son fondateur Jean-Thierry Vinstel.
C'est sûr qu'en Chine, la France est très très bien perçue en termes de jeux joués. Ils veulent le meilleur pour leur enfant et nous on leur offre le meilleur pour leur enfant.
Des pays éloignés toutefois pas toujours faciles d'accès. Xavier Sinan, qui fabrique des jeux éducatifs magnétiques, en a fait les frais.
On a exporté il y a quelques années en Russie et on a eu ensuite la mauvaise surprise de voir que nos jeux avaient été copiés et qu'on ne pouvait rien faire à ce propos, comme n'importe quelle petite société sur un marché aussi grand que le marché russe.
Autre marque made in France qui ont le vent en poupe, Asmodée, qui fabrique notamment Jungle Speed ou les jouets en bois Jeannot.
Un mot de foot Belgique-France ce soir, demi-finale de la Ligue des Nations, coup d'envoi à 20h45.
C'était le journal de Christophe Lamar. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien, c'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que va se courir ce Quintet. Un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 7 ans qui en découdront sur la distance de 2000 mètres. Et il est impératif de faire confiance au numéro 4 Ridouane, 1 Episodia, 9 El Magnifico et 7 Prince Anodin, classés respectivement au 1er, 2e, 3e et 5e rang d'un quintet similaire le 14 septembre sur le même parcours que celui qu'ils emprunteront cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et comme je suis certain de leur aptitude au terrain lourd, ces 4-là devront automatiquement figurer dans une sélection. Ensuite, je vous recommande les numéros 6 Astrologia et 14 Dorazio, deux spécialistes des pistes assouplies, avec January le numéro 8, bien malheureuse lors de sa dernière tentative à ce niveau sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, et Ave Dancer le numéro 11, qui se déplace depuis l'Allemagne avec de légitimes ambitions. Mon pronostic, 4, As, 9, 7, 6, 14, 8 et 11.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h40, bon réveil avec Europe 1 et vous restez avec nous, les récifs coralliens en danger. On en parle dans un instant.
Omblin Roche et Sébastien Guyot.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h42, merci de vous réveiller avec Europe 1. Les coraux à présent en danger. Presque tous les récifs dans le monde sont concernés. Signal d'alarme lancé par 300 chercheurs qui ont publié cette semaine la plus vaste étude scientifique à ce sujet jamais menée jusqu'alors. On en parle ce matin avec Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au CRIOB.
Bonjour Joachim Claudet.
Bonjour.
Entre 2009 et 2018, la planète a perdu 14% de ses coraux et ce recul menace la vie marine. Le changement climatique est clairement montré du doigt, mais ce n'est pas la seule cause. Pouvez-vous d'abord nous rappeler simplement quels sont les enjeux du maintien en bonne santé des récifs coralliens sous la surface des mers et des océans ?
Les récifs coralliens ont une importance considérable pour les écosystèmes et pour les communautés humaines qui en dépendent. D'une part, bien que ce soit des petites surfaces à l'échelle du globe, ils arborent plus d'un quart de la biodiversité marine totale, donc c'est considérable. Ensuite, pour les communautés, ils permettent de protéger l'érosion des côtes. Ils jouent comme un rôle de rempart contre les mouvements des vagues et la houle. Ils sont un réservoir de ressources pour la pêche, donc sont très importants pour la sécurité alimentaire et pour les activités économiques associées. Ils permettent aussi des revenus économiques liés au tourisme. Beaucoup de touristes qui viennent pour être dans un lagon, se baigner, plonger ou juste profiter. Et ils ont aussi une forte valeur identitaire parce que dans de nombreuses sociétés tropicales où il y a des récifs coralliens, le rapport à la nature est bien plus important que dans des sociétés comme les nôtres où on a pu peut-être un peu l'oublier ou se le représenter de manière différente avec une distinction homme-nature forte, ou dans plein d'endroits, par exemple du Pacifique, les récifs coralliens ont une vraie valeur identitaire.
Alors le changement climatique est l'une des causes qui explique ce recul, cette perte de 14% des coraux. Ils font partie des écosystèmes les plus anciens de la planète. Est-ce que les récifs coralliens peuvent s'adapter au réchauffement climatique ?
Oui et non, c'est-à-dire que oui, on voit des coraux qui s'adaptent, oui, ils se sont adaptés par le passé. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les manifestations actuelles du changement climatique, c'est sa vitesse. Et donc les anomalies de température, c'est-à-dire l'écart aux températures moyennes qu'on enregistre, sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Et un grand nombre d'espèces de coraux ont énormément de mal à s'adapter. Certains s'adaptent mieux que d'autres, mais à l'échelle de l'écosystème, qui est constitué de nombreuses espèces de coraux et qui permettent à de nombreuses autres espèces, en particulier des poissons, d'y vivre de manière associée, ça va beaucoup trop vite. Donc très clairement, on perd un certain nombre de coraux dû à ces stress de température.
Quasiment toute la planète est concernée. Y a-t-il des régions du monde où le danger de voir disparaître les coraux est plus important ?
Oui, on remarque cette perte un peu partout. On remarque qu'il y a un peu moins de pertes dans certaines zones de l'Indo-Pacifique qui ont de manière naturelle beaucoup de coraux aussi parce qu'elles peuvent être parfois un peu moins exposées aux anomalies de température, aux changements climatiques. Mais si elles continuent, enfin, toutes les espèces et tous les endroits sont concernés. Et quelque chose qu'il faut faire de très important, c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est lié aux manifestations du changement climatique. Donc les solutions sont essentiellement l'atténuation de ces effets, donc la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, mais également la résilience des écosystèmes coralliens, des récifs coralliens, peut être favorisée en diminuant les pressions locales sur ces écosystèmes. Et donc il y a énormément de solutions locales à mettre en œuvre, comme par exemple améliorer le retraitement des eaux, éviter d'utiliser trop d'engrais qui vont changer la qualité de l'eau et favoriser la croissance des macroalgues, des algues au détriment des récifs coralliens, éviter de surpêcher un certain nombre de poissons comme les herbivores qui permettent un équilibre dans les récifs coralliens. Donc il y a un grand nombre d'actions locales qu'on peut mettre en œuvre pour augmenter la résilience à ces problèmes qui sont globaux.
Oui, ce que vous dites, c'est que le changement climatique n'est pas l'unique danger. L'homme aussi, de manière locale, est un danger pour les récifs coralliens.
Oui, l'homme est un danger, l'homme est aussi une solution. Le récif, oui. le changement global, c'est aussi lié aux activités humaines. Et c'est aussi pour nous qu'on veut préserver les récifs coralliens, pour l'usage qu'on en fait, et pas uniquement, même si c'est fondamental et important, pour leur valeur intrinsèque et patrimoniale. Donc l'homme est acteur de changement, mais il est aussi force de solution. Et bien évidemment, l'action la principale à faire, c'est l'atténuation. Mais très souvent, les pays et les zones les plus vulnérables au changement climatique sont loin d'être les principaux responsables du changement climatique. Et c'est rarement ces pays ou ces régions qui ont les cartes en main pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique. Et donc, localement, il y a un certain nombre de solutions qu'il faut mettre en place et donc diminuer les stress et les pressions sur ces écosystèmes.
Merci beaucoup, Joachim Claude, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS au CRIOB, le laboratoire français qui étudie les écosystèmes coralliens. Bonne journée, merci.
Merci à vous.
5h47 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez. On retrouve Olivier Pouls pour la prescription culture chaque jeudi, vous le savez. Olivier partage avec nous ses coups de cœur au sein de notre patrimoine gastronomique. Bonjour Olivier, de quoi nous parlez-vous ce matin ?
Bonjour Amblin, bonjour Sébastien. Eh bien, nous parlons de volaille ce matin. Et vous vous en doutez, pas n'importe laquelle. Évidemment, oublions alors les poulets élevés en batterie et vendus découpés sous vide dans la grande distribution. Et intéressons-nous à nos plus belles poules élevées en plein air, nourries comme il se doit et donc d'une qualité gustative incomparable. La plus célèbre de ces volailles haut de gamme, si je puis dire, est sans aucun doute la volaille de Bresse, qui est la seule à disposer d'une AOP, appellation d'origine protégée en France depuis 1957. Elle est indiscutablement remarquable car elle est encadrée par un cahier des charges strict, mais elle n'est cependant pas la seule à mériter notre intérêt car un peu partout en France, on voit naître depuis quelques années des initiatives ou des élevages qui se spécialisent dans la volaille de qualité. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, et quels sont les secrets pour l'obtenir, Olivier ?
Eh bien, il y a tout d'abord la race Faverolles, Houdan, Cousnue, Gauloise dorée, Barbezieux, des races dites anciennes qui font un retour en force, notamment à la ferme de la Ruchotte en Bourgogne, où Fred Ménager, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands éleveurs de ce type de volaille, les choix durant de longs mois, car c'est là l'un des autres paramètres indispensables pour l'élaboration de poulet de qualité, c'est la durée de l'élevage. Alors on ne parle pas des 90 jours comme la plupart des produits, déjà haut de gamme que l'on trouve, mais là, carrément plusieurs mois, avec une alimentation adaptée. La fameuse poularde de Culoiseau, par exemple, est élevée 140 jours au minimum, avec différents types de céréales qui correspondent à chaque période de sa croissance.
Et puis Olivier, il y a aussi l'espace, hein, pas question de les enfermer.
Bien sûr, une volaille a besoin d'espace, de courir, de se faire les muscles, un peu comme nous. À la cour d'Armoise, Pascal connaît, lui aussi éleveur reconnu, dispose de plus de 6 hectares. Les volailles évoluent librement, vont et viennent au gré de leurs envies. Chez Fred Ménager, elles gambattent carrément dans la forêt. Vous l'imaginez, avec tout ce protocole, leur viande a un goût et une texture vraiment différentes. Ce sont des volailles qui ont de la mâche, surtout qui ne sèchent pas au moment de la cuisson. Elles sont un peu plus grasses. Ce sont des volailles qui ont de la mâche, qui ne sèche pas à la cuisson, c'est très important. Cuite au four ou tout simplement pochée, elle redonne de l'intérêt à ce produit que Ben, je vais vous le dire, pour ma part, je trouve terriblement galvaudé ces dernières années par les travers de l'élevage intensif qu'on ne peut là, pour le coup, que dénoncer.
Et on a l'impression qu'elle rentre de l'eau en plus avec ceci.
Ce qui est très souvent le cas, alors que celle-là, ce n'est pas du tout le cas.
J'imagine que question prix, c'est évidemment plus cher.
Ben, bien sûr, il n'y a pas de miracle. Oui, c'est plus cher, surtout si l'on compare avec les volailles industrielles. Ici, on est entre 13 et 20 euros le kilo. Mais battons-nous pour préserver ces races qui font le patrimoine de notre gastronomie. Mangeons-en moins, répétons-le, mais de meilleure qualité, et encourageons le travail de ces éleveurs passionnés qui redonnent le goût d'un grand poulet que pour ma part j'avais un petit peu perdu. Alors même si on n'est pas dimanche, une belle volaille sur la table avec une belle compagnie, ça fait quand même vraiment toujours plaisir.
Et rappelez-nous Olivier, où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on les achète ces volailles?
Eh bien la ferme de la Poule Noire ou la Cour d'Armoise à côté du Mans, la ferme de Vertesec dans le Médoc, hein, pas loin de Bordeaux, la ferme de la Ruchotte en Bourgogne, chez Fred Ménager, et la volaille de Culoiseau dans le Perche.
Merci Olivier.
Europe Matin. Omblin Roche, Sébastien Guyot.
À 5h51 sur Europe 1, le journal permanent, c'est avec Alban Le Prince.
Même pas candidat mais qualifié au second tour, si l'on en croit un sondage publié hier, Éric Zemmour est crédité de 17% d'intention de vote. Invité de Laurence Ferrari dans Punchline sur Europe 1 hier soir, il admet que ses scores l'encouragent à se présenter à la présidentielle. L'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines examiné à l'Assemblée d'ici fin novembre. Christophe Castaner, patron des députés de La République En Marche, l'annonce dans un article du Parisien publié hier soir. Une dose de rappel de vaccin contre le Covid pour les soignants, personnel des transports sanitaires et l'entourage des personnes immunodéprimées. Recommandation de la Haute Autorité de la Santé hier. La levée du pass sanitaire par département ou au niveau national. Question à l'ordre du jour du Conseil de défense sanitaire consacré à l'épidémie ce matin. Et puis ils comptent prendre leur revanche sur la demi-finale du Mondial 2018. Toujours pas digérée, la Belgique et la France s'affrontent ce soir en demi-finale de la Ligue des Nations. Coup d'envoi prévu à 20h45.
Europe Matin.
L'actualité de ce jeudi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article de la presse régionale raconté par celui qui l'a écrit aujourd'hui, Sébastien, des travaux qui ont coûté 43 millions d'euros. On prend la direction de Nantes.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes rédacteur en chef de Presse Océan et dans votre journal ce matin, une double page consacrée à un petit événement à Nantes. Hein. Ça fait plus de 10 ans de fermeture et de déconvenues en tout genre pour le musée archéologique du centre-ville, le musée d'Aubray. Et le chantier reprend enfin.
Oui, et c'est vraiment quelque chose qu'attendaient les Nantais avec impatience. Je pense que les plus jeunes habitants de la cité des Ducs ne connaissent même pas l'existence de ce musée. Imaginez, 11 ans qu'il a fermé ses portes. Alors c'est toute une histoire, hein. Il y a eu tout un tas de procédures. En fait, tout est parti du choix du conseil départemental de recréer un musée un peu nouveau, de le rajeunir, de construire de nouveaux bâtiments. Et puis c'est en plein centre-ville de Nantes, les riverains s'en sont mêlés. Et là on est parti dans des procédures
sans fin.
Voilà, procédures sans fin, plus quelques... Il y a également eu un premier projet qui a été... retoqué en raison de son coût financier. Et voilà, ça fait 11 ans maintenant que certains des trésors entreposés dans ce musée sont peu visibles. Alors, il y a quelques expositions itinérantes.
Ouais. Oui. Justement, pardon, je vous coupe Pierre-Marie, mais musée, ce n'est pas n'importe quel musée archéologique. 135 000 œuvres qui couvrent 500 000 ans d'histoire et 5 continents.
Ah ben, vous en savez encore plus que moi sur ce musée, mais oui, il a vraiment des trésors. Et le plus connu de ces trésors, c'est évidemment le reliquaire qui abrite le cœur d'Anne de Bretagne. Un reliquaire qui a été volé, imaginez, en avril 2018, où 4 jeunes hommes se sont introduits dans le musée, ont volé cette pièce ainsi que quelques monnaies en or et en argent. Et on a retrouvé le reliquaire une dizaine de jours plus tard. Alors le reliquaire d'Anne de Bretagne, c'est un peu le symbole, vous savez, c'est toujours l'histoire Nantes en Bretagne ou Nantes pas en Bretagne.
Mais ici,
ça fait toujours une polémique terrible. Et le reliquaire d'Anne de Bretagne qui avait disparu, c'était un véritable drame. Bon, il a été retrouvé une dizaine de jours plus tard dans une cache en forêt. Et heureusement, il est maintenant, les Nantais, dans 2 ans, pourront le découvrir.
C'est ce que vous dites. Les travaux vont durer longtemps. Réouverture fin 2023, début 2024.
Oui, s'il n'y a pas de nouveaux soucis, soit archéologiques, architecturaux ou financiers.
Avec donc 3 bâtiments actuels qui vont rester en place. Et il y avait eu un débat aussi, une polémique autour des espaces verts. Il y en aura moins, il y en aura plus?
Ah, alors là, écoutez, le projet, on on ne le connaît pas encore totalement dans le détail. Ce qui est sûr, c'est qu'on va creuser en sous-sol pour créer un grand auditorium. Et là, ça peut évidemment donner lieu à quelques surprises. Alors, il y a déjà eu des garrottages, hein. Ils ont déjà fait les spécialistes ont déjà ausculté le terrain, mais on n'est jamais à l'abri de découvertes archéologiques ou de problèmes de construction.
En tout cas, les travaux reprennent. On l'aura compris, c'est dans Presse Océan ce matin pour ce musée d'Aubray. 100 000 visiteurs par an, hein, quand même, attendus. Alors, bon, il faudra attendre un petit peu, donc 2023-2024. Merci beaucoup à vous, Pierre-Marie.
Oui, merci. Merci.
Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
Europe Matin, Sébastien Guyot et Omblin Roche.
5h57, c'est l'heure de faire un point sur ce qui vous attend dans la prochaine demi-heure.
Et on va faire appel à votre générosité. Le Pasteur Don, c'est parti, 15e édition. Où vont vos dons? À quoi servent-ils? On en parlera avec Vincent Hénouf de l'Institut Pasteur, spécialiste des maladies respiratoires et donc du Covid. Et puis, Omblin, juste après, votre partition.
Un artiste à l'allure candide, une voix qui monte, à jamais inscrite dans le patrimoine de la chanson française.
À mon petit copain, tu n'oses plus te baigner dans la mer.
Gérard Lenormand et ses années de gloire, les années 70, essentiellement. Bien sûr, ça a continué à 6h20.
Anissa, vous êtes Gérard Lenormand?
À fond.
Ça se voit.
Ah, j'adore. On va écouter Voici les clés, j'imagine.
Oui, sur la longueur.
Merci, Omblin.
Avec plaisir. Ça
nous permettra de mettre un petit peu de baume au cœur parce que la grisaille domine ce matin.
Oui, c'est vrai que c'est très gris et... Il va falloir être prudent si vous êtes sur la route. Là, j'ai reçu quelques messages d'auditeurs sur la route. Parce que sur la région parisienne, sur le Nivernais, sur le Massif Central, sur la Gironde, le Limousin, dans le Tarn, nous avons dans toutes ces régions ce matin pas mal de brouillards, des brouillards nombreux et surtout épais. Et puis dans le Nord-Ouest, en Normandie, sur le Cotentin, dans les Pays de la Loire, là on a un ciel quand même qui est très chargé, tout comme en Corse, où ce matin d'ailleurs, sur l'île de Beauté, le temps sera humide avec un risque d'averse qui devrait persister toute la journée. Alors au bord de la Méditerranée, il fait déjà beau ce matin, ça c'est la bonne nouvelle du jour, mais attention, le vent souffle fort, hein, Mistral et Tramontagne jusqu'à 90 km/h. Donc temps chargé en Corse, chargé également dans le Nord-Ouest, entre les deux, eh bien c'est le retour des belles éclaircies cet après-midi. Alors côté température, on a 2 à 15 degrés ce matin, c'est bien frais, ça baisse. Cet après-midi, comptez 12 à Charleville-Mézières, 14 à Saint-Étienne et Lille, 18 degrés à Paris et Quimper, 20 à Bordeaux et la maximale pour Bastia sous les nuages avec 26 degrés.
Les nuages, ça réchauffe.
C'est ça, exactement, vous avez compris Sébastien.
Merci Anissa, à tout à l'heure. Vous écoutez Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous. Il est l'heure du journal. Puisqu'il est 6h sur Europe 1, bienvenue. Ils ont croisé la mort.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
Ils ont croisé la mort au Bataclan, le récit poignant des rescapés. Ils témoignent au procès des attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron ou l'art du « en même temps diplomatique » après la crise des sous-marins. Le chef de l'État défend une Europe de la défense tout en restant engagé dans l'OTAN chère à Washington. Et puis dans le Lot-et-Garonne, les agriculteurs disent non à la construction de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Les élus du territoire plaident pour l'aménagement des lignes existantes. Reportage à suivre.
Europe 1.
Le journal de 6h vous est présenté par Roman Hoquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. L'horreur du Bataclan décortiquée minute par minute au procès des attentats du 13 novembre 2015. 90 morts, des dizaines de blessés, 226 parties civiles rescapées et proches des victimes témoignent à la barre jusqu'à la fin du mois. Parmi eux, Clarisse. Hier, elle a raconté son enfer recroquevillé dans le sous-plafond de la salle de spectacle. Le récit de Gladys Lafitte.
Clarisse, 24 ans à l'époque, aime observer les visages et ce soir-là dans la salle, tout le monde était heureux. D'ailleurs, à la barre, elle sourit. Fauchée, comme elle le dit, elle veut ressortir du Bataclan, acheter des canettes de bière. Alors dans le vestiaire, elle entend un son assourdissant qui déchire le silence de la rue. Elle regarde le videur. Je ne vois pas ce qu'il voit, mais je comprends. La mort, elle est là et il la voit. Trois terroristes entrent, Clarisse fait demi-tour, en pilote automatique, atterrit à droite de la scène, une cible facile, se dit-elle. Elle voit cette porte qu'elle défonce, des escaliers, une loge vide, se dit « on est piégés comme des cons, quelle mort de merde ». Clarisse réussit à faire rire la salle d'audience. Investie d'une mission selon ses mots, elle casse comme une furie le faux plafond à coups de poing et se cache pendant de longues heures avec d'autres personnes. « Vous avez conscience que vous avez aidé beaucoup de personnes à s'en sortir », remarque le président. « C'était hors de question que je meure ce soir-là », conclut Clarisse, modeste et digne.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Un nouveau signe d'apaisement. Trois semaines après la crise du contrat du siècle, l'ambassadeur de France en Australie sera de retour prochainement à Canberra. Précision donnée hier soir par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Paris se rabiboche aussi avec Washington. Nouvel entretien téléphonique entre Joe Biden et Emmanuel Macron, prévu d'ici la mi-octobre. Emmanuel Macron qui plaide en même temps pour l'autonomie militaire de l'Europe. Il était hier en Slovénie pour un sommet Europe-Balkans et Jacques Serret, il en a d'ailleurs profité pour faire passer le message.
Oui, le chef de l'État a appelé ses homologues à tirer les leçons des récentes crises, départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan, accord stratégique des États-Unis avec l'Australie et le Royaume-Uni conclu dans le dos de la France. Emmanuel Macron s'est appuyé sur ces exemples pour tenter de convaincre de la nécessité d'une véritable défense européenne, tout en assurant qu'il n'y avait là pas d'opposition avec le fait d'être dans l'OTAN et donc engagé avec Washington, l'art du « en même temps » pratiqué à l'échelle de la diplomatie. Il faut dire que si l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne soutiennent la France dans ce projet, les pays nordiques et baltes sont eux beaucoup plus frileux. Ils ne veulent surtout pas envoyer de signaux négatifs aux États-Unis alors que l'Alliance transatlantique est à leurs yeux une protection face à la Russie voisine. Mais Emmanuel Macron est bien décidé à poursuivre son offensive alors que la France va hériter de la présidence de l'Union le 1er janvier et qu'un sommet consacré à la défense est déjà prévu en mars.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
À 6h03, la suite du journal de Romain Hockey avec l'élargissement de la campagne de rappel.
La Haute Autorité de Santé recommande désormais une troisième dose de vaccin anti-Covid pour les soignants, sujet qui devrait être abordé ce matin lors du Conseil de défense sanitaire. À l'échelle nationale, on compte moins de 50 cas positifs pour 100 000 habitants en dessous du seuil d'alerte.
Et avec le recul de l'épidémie, l'époque du confinement et du 100% télétravail nous paraît donc bien loin, même s'il avait peut-être un avantage,
un seul,
le silence.
Exactement. Une étude de l'IFOP, justement publiée aujourd'hui, révèle qu'un Français sur deux est désormais gêné par le bruit au travail. Le professeur Jean-Luc Puel est le président de l'association Journée nationale de l'audition.
Quand vous êtes dans un open space et qu'il vous faut vous concentrer sur une tâche alors que vous avez du bruit autour et puis du bruit signifiant, hein, quand vous avez quelqu'un qui parle à côté de vous pour fixer votre attention sur la tâche que vous êtes en train de faire, ça devient excessivement compliqué, ça demande une charge cognitive énorme et les gens qui travaillent dans le bruit, la première plainte, c'est la fatigue. C'est le point marquant de cette étude, c'est les 24-35 ans. Donc, ils se plaignent d'avoir des problèmes de surdité, d'acouphènes, et puis tout ce qui a trait à l'irritabilité, aux problèmes de sommeil, aux problèmes d'hypertension, de stress en général. C'est tout ça qu'il faut prendre aussi en compte dans les effets du bruit, et pas seulement la surdité.
Le professeur Jean-Luc Puel, président de l'association Journée nationale de l'audition, joint par Afsané Saboui.
Déjà 1 million de billets de train vendus pour les fêtes de fin d'année. La SNCF a ouvert les réservations hier. Paris, Lyon et Bordeaux font partie des destinations phares.
Et oui, des destinations desservies par des TGV. Et bien, une autre ligne à grande vitesse est sur les rails, celle entre Bordeaux et Toulouse, reliée en à peine une heure. Le chantier pourrait débuter dans 3 ans, avec un premier départ en 2030. Des travaux colossaux avec des conséquences sur certaines terres agricoles, comme dans le pays d'Albret, près d'Agen. Le reportage de notre correspondant dans le sud-ouest, Stéphane Place.
Pommes, cerises, abricots, pêches, brugnons, sans oublier les fameux pruneaux d'Agen, de la vente directe, des repas pris sur place. Depuis 31 ans, Pascal Roch exploite la ferme créée par son père ici à Montesquieu. À 56 ans, cet arboriculteur vit un cauchemar éveillé. Tel qu'il est conçu, le tracé de la future LGV Bordeaux-Toulouse sonnerait le glas de son activité.
La LGV passe ici, juste au-dessus de la route. Elle traverse mon exploitation et elle écrète le coteau. On est nullement contre le TGV. On est particulièrement contre le tracé de la LGV, le dernier qui a été défini. Ce sera une balafre sur l'Albret, énorme. On va nous détruire.
Et le maire de Montesquieu, Alain Polo, prône l'aménagement des voies existantes.
Les petites communes comme les nôtres, ils s'en foutent royalement. Qu'ils aménagent la ligne existante, elle y est, ça coûterait beaucoup moins cher aux contribuables. Alors, si ça avait dû gagner vraiment du temps, mais pour 30 minutes, effectivement, dépenser 6 à 7 milliards d'euros, ça coûte trop cher.
Rallonger un peu le temps de trajet pour économiser plusieurs milliards, c'est l'argument que martèlent les habitants de ce joli coin de campagne, avec l'espoir mince, mais toujours présent, de préserver leur territoire.
Le reportage de notre correspondant dans le Sud-Ouest, Stéphane Place.
Ça, c'était le journal de 6h de Roman Hockey. Merci Roman.
Il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et avec un sommet ce soir.
Oui, Belgique-France, hein, la meilleure équipe du monde selon le classement FIFA contre le dernier champion du monde. La revanche de la fameuse demi-finale du Mondial 2018 aussi. Bref, une sacrée affiche et un enjeu, hein, se qualifier pour la finale de la Ligue des Nations. Une compétition toute neuve, hein, ce n'est que la deuxième édition, mais un trophée que Didier Deschamps et ses joueurs veulent aller chercher. On l'écoute.
C'est une parenthèse enchantée. On a tout fait pour se qualifier, pour être là dans ce Final Four. Voilà, après, je suis compétiteur, les joueurs sont compétiteurs, et quand on est compétiteur, ben, rien ne remplace cette adrénaline-là. Déjà par rapport à l'adversaire qu'on rencontre, qui est certainement une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe européenne. Et ça fait une affiche de prestige. Mais les joueurs ont envie d'être confrontés à un adversaire de cette qualité-là.
Le Final Four, comme dit Didier Deschamps. Belgique-France, c'est à 20h45 à Turin. Et pour l'occasion, les Bleus devraient de nouveau évoluer avec 5 défenseurs, comme contre la Finlande il y a un mois. 5 défenseurs, dont 2 frères, hein, Lucas et Théo Hernandez. Une première en bleu depuis 1974. C'était les frères Révelli, Hervé et Patrick.
Belgique-France, dont le vainqueur retrouvera l'Espagne.
Oui, la Rora, hein, qui a fait tomber le champion d'Europe en titre. L'Italie, hier soir à Milan, victoire 2-1 face à une Squadra Azzurra réduite à 10 et qui reste donc bloquée à 37 matchs d'affilée sans défaite. Ça reste un très joli record. À noter un autre record pendant ce match. Gavi, jeune milieu du Barça, 17 ans et 2 mois, est devenu le plus jeune international ibérique. C'est un peu le rayon de soleil côté catalan en ce début de saison. Très morose.
En bref, pour finir, Martin.
La Ligue de football professionnel, hein, qui sanctionne Lens, Lille et Marseille, un point au moins au classement, mais avec du sursis. Des sanctions qui font suite au débordement lors de Lens-Lille et Angers-Marseille. Retour gagnant pour les handballeuses françaises. Les championnes olympiques ont écrasé la République tchèque hier soir, 38-22. Un nouvel entraîneur pour les basketteuses, Jean-Aimé Toupane, succède à Valérie Garnier à la tête de l'équipe de France. Et enfin, du vélo. Pas de victoire pour Alaphilippe pour sa première avec son nouveau maillot de champion du monde hier. C'est le Slovène Primoz Roglic qui remporte Milan Turin, la plus vieille classique du calendrier.
C'était le journal des sports de Martin Lange. Merci Martin.
6h09 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. Si je vous dis le 36-20, vous me répondez, Omblin ?
Le Pasteur Don.
Oui, c'est le numéro du Pasteur Don. La 15e édition est lancée, on en parle avec Vincent Hénouf de l'Institut Pasteur. A tout de suite.
Les caresses ? Avec Poltron et Sofa, on voudrait que jamais ça ne s'arrête, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Si vous voulez profiter de la collection Caresses à partir de 489 euros seulement, vous avez jusqu'à samedi. Mais ne le dites à personne, ces caresses vont avoir du succès.
Poltron et Sofa, authentica qualità. Et voilà!
Qualité authentique vérifiée, conditions en magasin.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron ?
Bah qu'est-ce qui tourne pas rond ?
Eh ben c'est le potimarron. En ce moment chez Lidl, ils font le potimarron origine France à 1,99€ la pièce.
Moins de 2€ le potimarron ! Là y'en a marre.
Ah bah y en a potimarron, oui. Mais c'est le vrai prix, hein. 1,99€ pièce. Et tout rond, hein. Et rond potimarron.
Tu fais ton petit marron, toi, hein.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
EDF. Qui dit chef d'entreprise dit besoin de faire tourner une entreprise. Qui dit besoin de faire tourner une entreprise dit besoin d'énergie. Et qui dit énergie dit facture d'énergie. Et chef d'entreprise qui reçoit sa facture dit souvent aïe. Sauf s'il a opté pour un suivi conso EDF.
Et oui, quand on est pro, on peut aussi être pro des économies. Découvrez la gamme Suivi Conso qui permet de suivre votre consommation d'énergie et de l'ajuster selon vos besoins pour réduire vos dépenses en appelant gratuitement le 3022. Plus d'informations sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bonjour, c'est Alexandra Lamy. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont besoin de vous pour vaincre les épidémies, les infections, les cancers.
Pour soutenir leur combat avec Europe 1, soyons tous mobilisés. Pour le progrès, pour l'avenir de tous, défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel.
Ceci est un message de l'établissement français du sang.
Le sang.
Un produit qui sauve des vies.
En donnant votre sang, vous aidez chaque année 1 million de malades.
Pourtant, aujourd'hui, nos réserves sont faibles. Nous avons besoin de vous. Partagez votre pouvoir. Donnez votre sang dès aujourd'hui.
Don de sang, maintenant c'est urgent.
Trouvez ou donnez sur le site de l'établissement français du sang.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Il est 6h12. Bon réveil à vous. Comme chaque année, Europe 1 avec de nombreux médias et partenaires de Pasteur Don. La 15e édition dure jusqu'à dimanche. Une question de sensibilisation du grand public sous le signe de la générosité. Votre invité ce matin, Sébastien, c'est Vincent Hénouf de l'Institut Pasteur.
Bonjour Vincent Hénouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1 pour parler du Pasteur Don. 15e édition, ça a commencé hier. L'opération se poursuit jusqu'à dimanche. Un numéro, le 3620. Vincent Hénouf, vous êtes responsable du Centre national de référence des virus, des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Avant de parler de la recherche et du Pasteur Don, un mot du Covid, si vous le voulez bien. La quatrième vague est contenue, pas de cinquième en perspective a priori. Les chiffres sont encourageants, toujours à la baisse, en métropole du moins. Mais on l'a vu autour de nous, le retour de maladies plus classiques, les maux de tête, le nez qui coule, les quintes de toux, gastro-réno-bronchiaux. Comment vous l'expliquez ?
Plusieurs choses. Alors, soit, et en effet, on le remarque, les mesures barrières, port du masque, lavage des mains est un peu moins suivi et donc cela laisse le champ aux bactéries et aux virus de mieux se diffuser autre que le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, lui, est gêné puisqu'il y a une couverture vaccinale de la population qui est beaucoup plus importante. Et donc, ce virus... je l'espère, en tous les cas c'est ce que l'on observe, va circuler de plus en plus difficilement, de moins en moins vite, et donc il va sans doute y avoir un rééquilibrage parmi l'ensemble des virus respiratoires, et sans doute que cet hiver on aura du SARS-CoV-2 qui circulera avec de la grippe, c'est ce qu'on remarque déjà aujourd'hui, on détecte quelques grippes de temps en temps, et le VRS responsable de la bronchiolite est aussi détecté.
Alors vous recevez, vous, c'est votre travail, vous analysez les virus pour identifier de nouvelles souches et surveiller leur diffusion. Est-ce qu'après les souches alpha, delta, mu, est-ce que d'autres, plus dangereuses, plus inquiétantes, sont apparues ou sont à craindre ?
Alors si aujourd'hui on surveille ce virus, c'est justement pour apprendre à le connaître, ça c'est une première chose, aujourd'hui on le connaît davantage, et c'est pour vérifier si de nouveaux variants surviennent. Parce qu'aujourd'hui, on sait quelles sont les zones du virus au niveau de ces protéines extérieures qui peuvent muter et qui peuvent être responsables d'une meilleure diffusion ou alors d'une fuite au traitement ou alors d'une fuite au vaccin. Aujourd'hui, en effet, on est quasiment à 100% de virus Delta qui circule en France. Et donc, tout l'intérêt de notre travail au laboratoire, c'est de le suivre, de faire de l'épidémiologie de telle manière à vérifier et surveiller si un nouveau virus pourrait apparaître et engranger ce que l'on a connu jusqu'ici. Mais aujourd'hui, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'avec la couverture vaccinale de plus en plus importante, on évite énormément les formes graves. On l'a vu pendant cette quatrième vague, qui a été beaucoup moins forte que les précédentes. Et tout cela est très encourageant, mais ça veut dire aussi qu'il faut continuer à porter le masque, à se laver les mains, car il n'y a pas que le SARS-CoV-2 qui vise tout type de personnes à risque de maladies respiratoires, la grippe aussi. Et si ces deux virus circulent durant l'hiver, et c'est ce qui risque de se passer, il faut absolument être vacciné du SARS-CoV-2, être vacciné de la grippe, de telle manière à éviter toute forme sévère de la maladie.
Alors justement, on peut combiner troisième dose de Covid éventuelle et vaccin anti-grippe ?
En effet, on peut combiner les deux vaccins. C'est quelque chose qui est recommandé par l'HAS pour que les personnes... susceptibles d'avoir des formes graves, soient protégés de ces deux virus, car ces deux virus ciblent les mêmes personnes.
Le Pasteur Don, c'est un appel à la générosité des Français pour financer la recherche. 3 millions d'euros l'an passé récoltés. C'est quoi ? C'est quasiment un tiers de votre financement ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que le Pasteur Don nous permet de réagir. Et si je parle au niveau de la santé publique, ça a permis justement d'aller très vite et de mettre en œuvre différents programmes de recherche, de mettre en œuvre les laboratoires pour surveiller, dans l'exemple de la pandémie du SARS-CoV-2, surveiller ce virus rapidement, car nous avions les fonds. Et cela permettait justement d'être prêt à toute éventualité. Et donc, on était prêt à cette émergence de ce nouveau virus.
Vincent Hainouf, une dernière question. Les vaccins ARN messagers sont très efficaces, on l'a vu. Il y a eu beaucoup de critiques autour de la recherche française qui n'a pas réussi à développer son vaccin. Est-ce qu'un vaccin français ou un traitement anti-Covid est en perspective ?
Oui, tout à fait. Au niveau des vaccins, l'Institut Pasteur a encore plusieurs domaines, en fin de compte, de recherche autour du vaccin, de telle manière à avoir des formes différentes de vaccination anti-Covid. Là, jusqu'ici, on est vacciné essentiellement avec le vaccin ARN, mais d'autres vaccins, et notamment des vaccins par inhalation, donc c'est directement distribué au niveau des fosses nasales, permettrait de produire une immunité, je dirais, plus naturelle, en effet, proche de l'infection réelle due au SARS-CoV-2.
Merci infiniment Vincent Hainouf d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, directeur du CNR, le Centre National de Recherche des Virus, des Infections Respiratoires à l'Institut Pasteur. Et je rappelle, le Pasteur Don, c'est jusqu'à dimanche, si vous voulez faire un don, un numéro, le 3620 ou bien sûr le site internet pasteurdon.fr. Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée.
Il est 6h17 sur Europe 1, Gérard Lenormand sera dans la partition, à tout de suite.
Europe Matin.
Omblin Roche, Sébastien Guyot.
6h19 sur Europe 1, bienvenue. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi avec Alban Le Prince.
Je suis le candidat de la droite, je suis le candidat de ce qu'on appelait le RPR. Déclaration d'Éric Zemmour hier soir en dédicace à Versailles. Le polémiste invité de Laurence Ferrari un peu plus tôt dans Punchline sur Europe 1 admet que les sondages l'encouragent à se présenter à la présidentielle. Une troisième dose de vaccin pour 4 millions de Français supplémentaires. La Haute Autorité de la Santé recommande une dose de rappel aux soignants, personnel des transports sanitaires et à l'entourage des personnes immunodéprimées. Allonger le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines, loi examinée d'ici fin novembre à l'Assemblée, annonce de Christophe Castaner, patron des députés La République En Marche dans Le Parisien.
À 6h20, c'est le moment de retrouver votre partition Omblin. Cela fait plus de 20 ans qu'il n'a pas sorti un album composé uniquement de chansons originales. Gérard Lenormand est de retour avec un disque baptisé Le goût du bonheur, le 18e de sa carrière.
Une carrière, Sébastien, commencée à la fin des années 60. Gérard Lenormand a 23 ans et il tente de percer en se produisant sur quelques scènes improvisées.
Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portais des rubans, tu habitais tout près du grand palais.
Et au gré des rencontres, on lui propose d'assurer une première partie de Johnny Hallyday.
Il part ensuite sur les routes, en tournée avec Sylvie Vartan et Carlos. Encore inconnu, le chanteur s'apprête à voir sa popularité exploser.
Nouveau coup du destin en 1970, Gérard Lenormand décroche un rôle dans la comédie musicale qui fait grand bruit à Paris.
Il remplace Julien Clerc dans Air. Le spectacle né à Broadway se veut être le reflet de son temps et fait écho aux grands bouleversements sociaux et culturels que connaissent les États-Unis, mais également la France. Gérard Lenormand devient Claude, le personnage principal, avec son physique de jeune premier et sa voix qui monte sans se casser. Le chanteur triomphe sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Vont suivre son premier Olympia et son premier album.
Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid.
Tout semble lui sourire, Gérard Lenormand devient le petit prince de la chanson française et pourtant, tapis dans l'ombre, un fantôme ne le quitte pas.
Celui de son père, celui d'une enfance malheureuse, Gérard Lenormand a dû attendre l'âge de 35 ans pour apprendre que ce père qu'il n'a jamais connu était un soldat allemand, un musicien dans le civil qui faisait partie des troupes d'occupation. Le chanteur est donc le fruit de cette liaison fugace et interdite. Sa mère, juste 16 ans, s'est retrouvée avec un enfant non désiré, un fils de Bosch, comme on les surnomme, un enfant de la honte qui ne cesse de lui rappeler son erreur de jeunesse.
Il fait toujours beau où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à jouer, sans songer à l'école en pleine liberté pour rêver.
Et cet enfant sous le joug d'une femme brutale devenue mère trop tôt, eh bien, il va la réécrire.
Les auteurs-compositeurs Daniel et Richard Seff lui offrent la chanson Les Matins d'hiver, qui raconte l'insouciance enfantine de deux jeunes frères. Gérard Lenormand s'approprie le texte et se place en tête des meilleures ventes. C'est simple, tout au long des années 70, le chanteur accumule les disques d'or. En 1976, son 33 tours Drôle de chanson est largement plébiscité, et notamment grâce à l'adaptation d'un succès italien.
Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents.
C'est une chanson qu'on doit à l'origine à Toto Cutugno, Gérard Lenormand, avec Voici les clés et voici son nouvel album qui s'appelle Le goût du bonheur et qui sera disponible dès demain.
Merci beaucoup, Ombline. 6h24, restez avec nous dans un instant. Dimitri Pavlenko entrera dans ce studio pour vous accompagner jusqu'à 9h. Bienvenue et à tout de suite.
Europe Matin.
Très bon début de journée à tous. Il est 6h27 sur Europe 1 et c'est le moment pour nous de vous donner rendez-vous demain à 5h.
Oui, et voici celui qui va vous informer jusqu'à 9h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Sébastien, bonjour Ombline.
Bonjour.